Chapitre 74. Ivry-sur-Seine, un jour de l'an. La gare du RER quasi déserte, hormis quelques SDF cuvant sous les bancs. Des rues encore endormies, même si on approchait de midi. Les volets métalliques des boutiques baissés. La Seine, encastrée entre les immeubles d'entreprise et les chantiers en cours. Sans la présence du fleuve, tout aurait certainement été bétonné, envahi de bureaux, de commerces, d'hôtels. Paris était un ogre insatiable. Après un coup de fil à Santucci, déjà au 36, Florence était venue directement ici depuis son appartement, évitant ainsi un détour par le quai des Orfèvres. Elle marcha une dizaine de minutes, dossier sous le bras, l'esprit encombré. Le récit de Charcot, la veille, l'avait travaillé une bonne partie de la nuit. Un jumeau qu'on croit mort, fauché en pleine adolescence, mais qui serait toujours en vie. Un double meurtre, voire triple, qu'on aurait fait passer pour un accident. Ne s'agissait-il pas là du plus horrible détour de magie? Les parents avaient peut-être été assassinés par leurs propres enfants parce qu'ils avaient fait aveuglément confiance à des monstres comme Escrémieux et Lagarde. Pendant 14 ans, ils avaient forcé Julie à être ce qu'elle n'était pas. Ils étaient les premiers responsables de sa souffrance et par conséquent de celle de son frère. Mais des questions demeuraient. Qui avait, en définitive, mutilé et tué Hélène Lemaire? Qui avait déterré Delphine Escrémieux et l'avait violée avec un arsenal de godemichet, pour ensuite l'abandonner dans une porcherie? Qui se cachait derrière la fausse barbe? Julie ou David? Auquel des deux appartenait l'ADN découvert à Saint-Forgé? Elle finit par atteindre la résidence de la magicienne, un ensemble de bâtiments autour d'un parc plutôt agréable. Après avoir identifié le bon bloc, elle se présenta devant un interphone et sonna sur le bouton indiquant « Circé ». Puis elle patienta. Au bout d'une vingtaine de secondes, un grésillement se fit entendre.
« Oui ?»«
C'est Florence Ferriot, l'inspectrice de la brigade criminelle. Désolé de vous déranger un jour pareil, mais c'est urgent. Je peux vous parler ?» Il y eut un temps de silence, puis un bip signala que la porte se déverrouillait. Franck était en train de boucler sa valise lorsqu'un appel de l'accueil l'informa qu'un homme du nom de Jackie Blocard le demandait en bas, l'ancien gendarme. Il répondit qu'il arrivait et enfila ses chaussures assis sur la chaise la plus proche de la fenêtre. Il profita encore un peu de la vue, se pencha pour apercevoir à l'horizon le Mont Blanc entièrement dégagé. Un instant de grâce qu'il aurait aimé interminable. Jackie Blocard était de ces types charpentés, solides, qu'on imaginait transbahuter des troncs sur l'épaule ou attraper la truite à main nue dans un torrent. Il dominait Charcot d'une demi-tête et, malgré l'âge, était bien campé sur ses jambes, le dos droit et l'œil vif. Ils se saluèrent respectueusement, se souhaitèrent la bonne année. Le jeune policier commanda deux cafés et ils s'installèrent dans un coin salon à gauche de l'entrée.
« Merci d'être venu le jour de l'an, surtout dès le matin. Je suis un lève-tôt et je dois avouer que votre mot m'a intrigué. Un inspecteur du prestigieux 36 quai des Orfèvres qui débarque chez moi le soir du réveillon pour enquêter sur cette vieille histoire. »
Il attendait quelques explications que Franck simplifia autant qu'il le put. On avait récemment retrouvé Hélène Lemaire, qui avait été élève au collège de Sallanches, assassinée du côté de Paris. Il montra la photo de classe trouée, lui exposa ses recherches dans les archives de l'établissement. L'année 1974, le harcèlement, les jumeaux Lescure. L'ancien gendarme observa le cliché avec beaucoup d'attention.
Et donc, vous croyez que c'est Julie Lescure la coupable?
Ça alors? Charcot lui laissa le temps de digérer l'information avant de poursuivre.
Nos investigations nous indiquent qu'elle n'est pas seule dans le coup, ou en tout cas que quelqu'un d'autre est au courant de son crime. Je sais que cela va vous paraître impossible, mais nous pensons que son frère jumeau, David, est cet autre.
Jackie Blocard secoua fermement la tête.
Ça ne me paraît pas impossible. C'est impossible. Les corps ont été carbonisés dans le chalet, je présume qu'ils étaient méconnaissables. Vous avez disposé d'éléments concrets garantissant que le cadavre de l'adolescent était bien celui de David?
Oui, figurez-vous.
Les dents.
Rouge à lèvres noires sur visage poudré, longue robe de chambre en soie juste assez transparente pour qu'on puisse deviner ses petits seins, pieds enfoncés dans des chaussons, Circé n'était pas encore habillée mais déjà maquillée. La trentenaire s'écarta de la porte et invita l'inspectrice à entrer.
« Je suis désolé de vous accueillir ainsi, » fit la magicienne. « Je me suis couché tard, ou plutôt tôt. Et votre visite est la dernière chose à laquelle je m'attendais. »
L'appartement était vaste, doté d'un séjour lumineux à la décoration minimaliste, celle-ci se résumant à quelques statuettes aux formes étranges, à tous les coups de l'art contemporain. Une bibliothèque généreuse apportait un peu de couleur dans cette pièce épurée.
« Installez-vous, » fit Circé. « Je vais lancer la cafetière. »
Florence posait à peine son dossier sur la table que son hôte revenait déjà. Toutes deux s'assirent face à face.
Vous parliez d'urgence. Toujours cette même affaire, j'imagine?
En effet, nous avons avancé et si je suis ici, c'est parce qu'une vie est probablement en danger à l'heure où je vous parle. Nous possédons l'identité du ou des assassins. Les retrouver n'est qu'une question de jour, mais demain, il sera peut-être trop tard. David et Julie Lescure, est-ce que ça vous évoque quelque chose?
La flic vit un nuage passer dans les iris verts de l'illusionniste. Elle se recula sur sa chaise. À l'évidence, ces noms ne la laissaient pas indifférente.
Un homme et une femme? Des époux?
Frères et sœurs. Enfin, c'est plus compliqué que ça.
Ce seraient à l'origine des jumeaux garçons dont l'un aurait été élevé comme une fille. Sans doute à cause de problèmes d'ordre sexuel à la naissance. Dites-moi que ce que je vous raconte, ça fait remonter des souvenirs.
Un des coins de la lèvre supérieure de Circé se mit à tressauter. La magicienne plaqua ses doigts dessus pour empêcher cette soudaine manifestation nerveuse.
Je les connais, oui. Bien sûr que je les connais.
Florence ressentit un immense soulagement.
Elle y était. C'était ici qu'allait se refermer la boucle.
Face à elle, Circé se prit la tête entre les mains, le visage contracté. Elle inspirait et expirait lourdement.
« Ça ne va pas ?» interrogea la flic. « Excusez-moi, j'ai régulièrement des migraines carabinées. Vous devriez partir maintenant, s'il vous plaît. »«
Vous avez des médicaments, je présume. Quelque chose pour apaiser la douleur. » Circé se leva d'un coup.
« Il faut que j'aille dans la salle de bain. Repassez un autre moment. »
Je vais attendre que ça aille mieux. Je voulais expliquer, c'est important. La jeune femme s'éloigna. Florence resta interdite. L'évocation des Lescure avait mis son interlocutrice dans tous ses états, jusqu'à lui provoquer un brusque mal de crâne. Deux minutes plus tard, elle entendit l'eau d'une douche couler.
C'est quoi ce bordel?
Se murmura-t-elle à elle-même. Cette curieuse réaction l'avait refroidie, mais il n'était pas question de renoncer. Bras croisés, elle s'avança dans le séjour, jeta un œil par la fenêtre qui donnait sur le parc. Un homme promenait son chien. Un couple apprêté sortait en riant. Elle frissonna tout à coup. Toucha le radiateur. Il était au minimum. Puis elle observait les murs. Pas de cadre, rien de personnel. Dans la bibliothèque, quelques classiques, une rangée de romans policiers. Dessous, des ouvrages sur la cognition, l'art de la manipulation ou celui de convaincre, sur le mental, la psychologie, l'étude des expressions faciales. Plus bas, elle bloqua subitement sur un dos qu'elle connaissait par cœur désormais. Elle saisit le livre, les sourcils froncés. Baudelaire, Les fleurs du mal. Exactement la même édition que celle des enveloppes, mais abîmée, lue et relue. Avec appréhension, elle alla à la page 122. Delphine la couvait avec des yeux ardents. Delphine était entourée au stylo bleu. Il y eut dans les profondeurs du cerveau de Florence une étincelle qui sembla tout embrasée. La traînée de feu flamba jusqu'à sa conscience.
« Non, ça n'est pas possible, » se dit-elle.
Et pourtant, sa main tremblait comme jamais lorsqu'elle reposa le recueil. Dans le coin cosy de l'hôtel, un serveur apporta les cafés. Jackie Blocard plongea un sucre dans le sien et mélangea avec sa petite cuillère. David Lescure était allé chez un dentiste de Salange pour traiter une carie 6 mois avant la tragédie. Je ne saurais plus vous dire précisément, mais on a retrouvé la trace de ce soin sur la denture du cadavre. Tout comme d'autres éléments, notamment une marque d'ancienne fracture sur un des tibias, stigmate d'une chute de vélo survenue peu de temps après leur emménagement à Passy. Il n'y a aucun doute là-dessus. David Lescure et ses parents sont morts le 21 juillet 1974 dans l'incendie de leur chalet. Julie a été la seule survivante. Frank voulait bien le croire. L'idée d'un corps brûlé à la place d'un autre, d'un gamin de 14 ans qui n'aurait plus donné signe de vie sans que personne s'en inquiète, ne l'emballait pas de toute façon. Mais ça ne faisait qu'accroître la force de l'énigme à laquelle il était confronté.
Vous savez comment Julie a pu réchapper du brasier?
Les pompiers venaient de la retrouver dans le jardin quand je suis arrivé sur les lieux. Je me rappelle encore, elle était en pyjama, quasi inconsciente. Elle n'a jamais été capable de raconter ce qui s'était passé. Tout ce dont elle se souvenait, c'était s'être endormie dans son lit et s'être réveillée là, devant la maison en flammes. Le médecin a dit que l'amnésie était relativement fréquente dans de telles situations. Une espèce de mini-trou de mémoire autour d'un événement traumatisant. Charcot but une gorgée de café.
« J'ai vu les articles de l'époque, » annonça-t-il. « Le départ de feu était lié à une lampe à pétrole, c'est bien ça ?»«
Ça a été notre déduction, oui. La nuit, il y en avait toujours une allumée qu'ils accrochaient sous le fronton de l'entrée. Mais les débris qu'on a découverts dans les décombres, ils n'étaient pas à ce niveau et on a supposé qu'elle avait été utilisée à l'intérieur ce soir-là. Mal éteinte, posée au mauvais endroit ou renversée. On connaît la suite.
En effet,
Et Julie, qu'est-elle devenue ?
Blocard serra sa tasse entre ses grosses mains comme pour les réchauffer. Il n'était pas difficile de deviner que le drame avait laissé des traces indélébiles.
Écoutez, inspecteur, cette gosse, elle n'allait pas bien, ce qui peut se comprendre après un truc pareil. Elle a été prise en charge par les services sociaux, elle s'est retrouvée dans un foyer de la DAS du côté de Chamonix. Je lui ai rendu visite plusieurs fois là-bas. Ils ont essayé de contacter des membres de sa famille, des grands-parents, des oncles, des tantes, mais ça n'a rien donné. Il semblait que les Lescure s'étaient coupés de tout le monde en fuyant la Bretagne. Julie n'arrêtait pas d'appeler son frère. Elle hurlait, et elle a commencé à se faire mal, comme pour se punir d'avoir survécu. Et puis, il y a eu autre chose. Le regard de l'ancien gendarme se perdit quelques instants dans le vague. Il gonfla la poitrine et expira doucement par le nez. Au foyer, son corps s'est peu à peu transformé. Il se masculinisait. Duvet au-dessus de la lèvre, voix qui descend dans les graves. La môme a fini par avouer qu'elle prenait des comprimés depuis des années, stockés en quantité chez ses parents, mais qu'elle refusait désormais d'en avaler. Je ne me souviens plus du nom exact, mais c'était des anti-androgènes. Des médicaments qui contrent les effets des hormones sexuelles mâles. Elle était en réalité un garçon. Tout en faisant ses révélations, le retraité fixait Charcot qui hochait la tête. « Vous étiez au courant ?» demanda-t-il.
Une collègue m'en a informé pas plus tard qu'hier soir. On pensait traquer un homme à cause de l'ADN prélevé sur les lieux du crime. Mais tout indique à présent qu'il s'agit d'une femme. Julie.
Son interlocuteur se pencha un peu plus vers lui, baissant d'un ton. Je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. J'ai à l'époque moi-même eu quelques soucis personnels qui m'ont éloigné de toute cette histoire et de cette gamine. Mais quand j'ai voulu prendre des nouvelles après plusieurs mois, j'ai appris qu'elle avait tenté de se suicider, qu'elle avait été internée dans un hôpital psychiatrique, un truc pas gay du côté d'Annecy. Je n'ai plus jamais eu de contact avec elle, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Charcot imaginait toutes les épreuves endurées par Julie Lescure. Son enfance, son adolescence n'avaient été qu'un parcours du combattant plein de souffrances. Que s'était-il passé à l'asile? L'avait-on contrainte à continuer son traitement hormonal? L'avait-on enfermé toujours plus dans un corps de femme qui n'était pas le sien? L'avait-on convaincu de rester piégé dans ce genre-là, parce qu'un retour en arrière était impossible?
J'aimerais vous montrer des photos, monsieur Blocard. Ce sont celles de gosses nues qui, on le suppose, ont subi des attouchements ou des sévices sexuels de la part des médecins qui se sont occupés d'eux. On a de bonnes raisons de penser que Julie et peut-être également son frère David font partie de la série. Ça s'est probablement produit avant leur installation ici.
Le jeune inspecteur donna d'abord le paquet de garçons à l'ancien gendarme. Celui-ci les observa avec gravité jusqu'au dernier.
Rien. Les filles à présent.
Les rectangles de papier glacé paraissaient ridicules entre ses mains de géant. Franck termina son café et posa sa tasse presque sans faire de bruit. Le regard de Jackie Blocard s'était figé devant un cliché.
« Vous l'avez ?»
demanda le flic. Le retraité acquiesça avec conviction.
« Oui, c'est elle. C'est Julie Lescure. »
Il retourna la photo, et Charcot eut alors l'impression que la terre se dérobait sous ses pieds. Il connaissait ce visage lui aussi. Il bondit de son fauteuil avant de se ruer vers l'hôtesse d'accueil. Il espérait que Florence serait joignable, qu'il ne serait pas trop tard.
« Je dois utiliser votre téléphone. »
Florence n'arrivait pas à y croire. Fébrile, elle vérifia l'entrée de la pièce. Elle entendait encore l'eau couler dans la salle de bain.
Mais qu'est-ce qu'elle fout ?
Elle revoyait la lèvre rebelle de la magicienne, ses traits qui s'étaient contractés. Elle devait en avoir la certitude. Alors elle ouvrit un des tiroirs du meuble à côté duquel elle se tenait et s'empara du premier document officiel qu'elle trouva. Facture de gaz. Le nom lui souleva l'estomac. Julie Lescure. La montée d'adrénaline fut fulgurante. Son cœur partit dans les tours en un claquement de doigts. Ses tempes pulsaient. L'inspectrice sortit son arme de service de son holster et ôta le cran de sécurité, incrédule. Circé était venu au 36. Le glaive avait pris sa déposition. Mais avait-il seulement réclamé une pièce d'identité? Il le faisait pourtant toujours, c'était la procédure. Visiblement pas cette fois, pas avec elle. Et si elle n'avait pas jugé utile de mentir sur son adresse, elle avait pu donner n'importe quel nom. Caroline Brandier, par exemple. D'une manière ou d'une autre, elle les avait complètement manipulés. Florence emprunta le couloir. La porte d'où provenait le bruit était entrebâillée. De la vapeur d'eau s'échappait par l'interstice. Elle s'approcha à pas feutrés et perçut soudain un craquement de plancher derrière elle. Le temps de se retourner, il était déjà trop tard. Un homme aux yeux noirs, barbu et affublé d'une casquette, se jeta sur elle, et un objet s'abattit avec force dans sa direction. Le choc fut d'une telle violence que son crâne sembla exploser.